Cet épisode a été rendu possible grâce à la contribution de ArchiPro. ArchiPro est une application web et mobile de gestion de projets de construction. Développée par une jeune entreprise, le logiciel fait déjà ses preuves dans le milieu de la construction en Côte d'Ivoire.
Aujourd'hui, on a la chance, et moi je connais déjà en Côte d'Ivoire, c'est pas pour dire. Ils sont encore à Abidjan, là, et ils ont fait le MBA aussi. En étant là-bas, ils ne sont pas ici, mais ils ont investi, ils ont fait le MBA aussi à l'Université Laval, ils ont obtenu les diplômes, ils sont restés à Abidjan. Parce qu'on a quand même une visibilité, on sait, ok, d'ici, ok, en 2025, le gouvernement compte lancer tel projet, tel montant de disons, de telle valeur. Si c'est un projet hydraulique, ok, moi je suis une entreprise, je sais que je n'ai pas cette compétence aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire? Des alliances stratégiques peuvent être créées afin de pouvoir répondre à cette demande localement. Mais sinon, on surprend les entreprises avec des projets à être réalisés, mais pratiquement, ce sont les entreprises étrangères, malheureusement, qui remportent. Pourquoi?
Bonjour et bienvenue sur PGC, le podcast du génie civil. Ici Alain Madogo. Aujourd'hui, pour ce 7e épisode, je suis avec Cambry Sier-Olivier. Cambry est un ingénieur des travaux publics ivoirien exerçant depuis 6 ans au Canada. Dans cet épisode, nous parlons de son parcours, de ses diplômes et certifications, et aussi du métier qu'il exerce actuellement. Durant la discussion, il nous explique clairement les motivations derrière son expatriation au Canada, le choix des formations complémentaires qu'il a réalisées et aussi l'importance du métier de conseil stratégique en planification de projet. J'ai beaucoup apprécié le contenu de notre conversation. J'espère que cela sera pareil pour vous. Je m'arrête là et je vous laisse l'écouter. Je vous souhaite une excellente écoute. N'oubliez pas d'en parler autour de vous, de commenter le podcast et de le partager avec des personnes qui pourraient être intéressées. Et aussi de le noter 5 étoiles sur vos plateformes d'écoute préférées. Bonjour Olivier et merci d'avoir accepté l'invitation sur PGC. On va entrer dans le vif du sujet. En même temps, tu vas te présenter pour que les auditeurs sachent qui est Olivier.
Merci. Mon nom est Olivier Cambry. Je suis ingénieur génie civil de formation, formé à l'UNSTP à Yamoussoukro en Côte d'Ivoire. Et puis, je travaille présentement à titre de conseiller stratégique en planification de projets depuis quelques années ici au Canada. Je travaille essentiellement dans le secteur des infrastructures publiques.
Ok, mais avant de rentrer proprement dit dans le sujet, la première question que je pose aux invités, c'est d'abord pourquoi le choix du génie civil?
Le choix du génie civil, honnêtement, je me souviens, il y a quelques jours, j'ai mon fils, dans mon aîné, qui me posait la question. On était là, et puis, on parlait quand même de carrière. Je lui demandais, mais qu'est-ce qu'il allait faire plus tard quand il allait grandir? Est-ce qu'il avait en vue ce qu'il voulait faire? Et lui m'a retenu la question. Il m'a dit, mais papa, mais est-ce que tu as toujours voulu être ingénieur? Est-ce que tu as toujours voulu être... Et ça m'a amené quand même à me questionner. Et puis, j'étais là, je me suis rendu compte que l'envie, l'amour pour le génie civil était déjà enraciné en moi, disons, depuis le primaire. Le primaire, c'est-à-dire, quand je terminais pratiquement la classe du primaire au CM2, pour être exact. Et c'est là que je savais que c'est le génie civil que je voulais faire. Pourquoi? Parce que là où j'habitais avec mes parents, il y avait l'ami de un de mes grands frères, qui était pratiquement major aussi de la promotion. Et puis, j'entendais dire qu'il était parti à Yamoussoukro, et puis qu'il faisait travail public. Au moins, j'étais, étant quand même à la recherche d'un modèle de réussite sur lequel quand même m'accrocher pour pouvoir, avancer en ce moment-là. Parce que quand on est encore petit, on ne sait pas trop ce qu'on veut. Les modèles changent toujours. Même si tu poses la question à un enfant tout de suite, En moins de 10 minutes, là, il peut te dire qu'il veut faire 10 métiers. Là. Donc,
tout à
chaque
fait.
Métier, parce que les modèles ne sont pas encore clairement définis. Et c'est là que j'ai dit, ben, tiens, voici quelqu'un à qui je veux ressembler. Et c'est, cette personne était née même là, parce qu'il a, il a diplômé de l'INP, il s'appelle Yo de Fungo. Donc,
ah,
donc c'est vraiment quelqu'un qui m'a vraiment marqué. Et j'ai voulu vraiment lui ressembler d'un point de vue professionnel. Et même, je le côtoyais, même quand il rentrait des vacances, tout le temps, je partais, disons, discuter avec lui. J'étais encore au lycée. Donc, tout de suite, je savais ce que je voulais. Là. Et même quand on est parti après le bac, on a même fait le lycée classique aussi ensemble. Il a fait le lycée classique, j'ai fait le lycée classique. Donc on
s'est parti. Le lycée classique d'Abidjan
D'Abidjan, oui. D'Abidjan, okay. Cocody. Et donc, après le bac, on est parti, disons, déposer les candidatures pour être retenu pour l'INP. Là. Donc, on a candidaté, il fallait faire les choix. Donc, il fallait faire les choix des écoles. Et moi, après le premier tour, j'avais été, disons, accepté dans tous les cycles. Tous les cycles longs et même les cycles où il y avait quelques cycles auxquels aussi j'avais poursuivi. Là, on avait retenu dans tous les cycles, notamment commerce, agro et puis génie civil. Mais tout de suite, là, ben, j'ai coché génie civil. Puis, ben, je dis, c'est bon pour moi, là.
Voici pourquoi c'est important pour que les plus jeunes aient des modèles, hein, parce que quand on est plus jeune, quand on a des modèles, ça nous permet de vite se fixer ou bien vite savoir que c'est ce qu'on n'a pas envie de faire, en fait.
Absolument, 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 tout à fait d'accord. Mais c'est ce qui manque aujourd'hui dans la société. Hein. Malheureusement, ben, ce qu'on voit aller, ben, on ne dira pas que les choses sont comme dans la guérite. Il y a quand même des choses qui se font, qui sont quand même très bien. Mais dans l'ensemble, on voit que la jeunesse est quand même à la recherche quand même des repères.
Donc, oui, tout arrive, à fait.
Ne sont pas quand même responsables quand même pour l'entièreté de la situation qu'on vit actuellement, mais parce qu'il n'y a pas de modèle. Ou s'il y a des modèles, ben, il faudrait aussi accepter de prendre la main aussi des plus jeunes.
Comme, c'est ça.
Disons, l'aîné de qui je te parlais tantôt, là, l'aîné de Fungo Yeo, qui a quand même accepté, je partais le voir, je posais des questions sur la formation à l'INP, la formation d'ingénieur, qu'est-ce qu'il fait. Et puis, on a vraiment gardé de très bons contacts là, oui, de très bons contacts parce qu'il m'a vraiment motivé et puis il a été quelqu'un qui, disons, d'une certaine façon, m'a montré le chemin sans même l'indiquer physiquement.
Ouais.
Mais il a donné vraiment l'exemple.
Ok, en tout cas, merci pour ce partage. C'est intéressant. J'aime poser cette question parce que après, les réponses diffèrent d'une personne à une autre et puis c'est vraiment intéressant de savoir ça. Ok. Après ton diplôme d'ingénieur à l'INP HBD Yamoussoukro, qu'est-ce que tu as fait avant d'être aujourd'hui conseiller stratégique en planification de projet?
Après mon diplôme à l'INP, je suis sorti, j'ai travaillé comme tout le monde. Mais déjà, la première entreprise dans laquelle, où j'avais fait mon stage, fait une étude, là, j'étais retenu là. Donc, tout de suite, j'étais déjà engagé comme ingénieur. Bon, on commence. Déjà, il faut faire ses preuves donc, sur le chantier. Mais moi, la particularité, c'est qu'en génie civil, moi, je n'ai pas fait bâtiment. Je n'ai pas fait bâtiment. Disons, le tronc commun, on fait un tronc commun ensemble, mais la spécialité...
Et la spécialité, oui.
Mais bizarrement, quand on a terminé, j'ai travaillé beaucoup plus en bâtiment. Donc là, je travaille en bâtiment, mais on a quand même une formation qui est quand même...
généraliste.
Bien structurée, bien généraliste. Mmh. Donc, ce n'est pas juste 3 mois de spécialité qui vont déterminer la carrière de quelqu'un ensemble.
Bien sûr.
Donc, en partant, il n'y avait pas vraiment de complexe. Et puis aussi, au sein de la promo, là, on se comprend. Donc, quand tu vois quelqu'un qui a fait une spécialité hydraulique, quand il fait bâtiment, ça ne choque personne.
Oui.
Et donc là, je travaillais, disons, comme ingénieur. Quand dans le temps, on disait quoi? C'était quoi? Chargé d'affaires, c'est ça. Chargé d'affaires, travailler sur quelques projets. Et après, là, après le premier emploi, j'étais changé, j'étais chez Socotec. Comme contrôleur technique de projet, donc de chez Socotec, c'est là que j'ai vraiment disons commencé quand même à asseoir mon statut comme en termes de carrière en génie civil, parce que je travaillais quand même sur de gros dossiers, sur de gros projets, des projets quand même des grandes d'un point de vue budget là, en tout cas des projets qui étaient quand même importants.
Si c'est possible d'avoir des exemples,
des exemples. Déjà chez Socotec, je travaillais sur le projet, déjà à San Pedro, là, pour la SOGB, on devait construire un terminal huilier.
Au port
Au port de San Pedro pour la SOGB, société de Grand Bérébi, je crois. Ouais, ouais, c'est ça. Mmh. La SOGB, exact. Donc, on devait construire un terminal hulier. C'était des tanks de stockage d'une capacité. Là. C'est vrai qu'il y a longtemps, mais ce projet m'a tellement marqué là parce que c'était vraiment début de carrière. C'était deux tanks pour un volume total autour de 4 000 mètres cubes quand même. Voilà, donc, j'étais là-bas. Et ça, ce n'était pas juste Socotec. J'étais chez mon ancien employé, mais le contrôleur technique était Socotec.
Socotec.
C'est là que j'étais en contact avec Socotec. Donc, pratiquement à la fin du mandat, quand j'ai terminé le mandat, c'était après 6 mois, on a livré l'ouvrage. Et puis, ben, en tout cas, c'était quand même concluant. Le client était satisfait. On avait même eu une attestation de bonne exécution. Et moi, j'ai remis en main propre à mon employeur quand je suis rentré à Bilan. Et c'est là que j'ai rejoint Socotec. Et de chez Socotec, maintenant, ben, on travaillait quand même sur des mandats quand même assez importants. Mais c'était que celui-là. Il y avait le projet, actuellement au plateau à Bijan, à côté de la BESIC. Il y a un immeuble qui est juste à côté, juste derrière EcoBank. Mm-hmm. Oui, un immeuble. C'était un immeuble, c'était un projet sur lequel je travaillais aussi à titre de contrôleur. Et puis, mais moi, la plupart de mes mandats étaient beaucoup plus à l'étranger.
Ah, okay.
Je voyageais beaucoup, oui. Oui, je travaillais beaucoup au Bénin. Je suis allé au Bénin, au Burkina Faso aussi. On travaillait sur le projet du château d'eau. Mais à terre, on sait que on m'appelait un spécialiste des châteaux d'eau parce que j'en ai fait quand même une couple là, oui.
Presque tous les projets que tu faisais étaient des châteaux d'eau dans ces pays-là.
Château d'eau, ouais, en tout cas, une coupe quand même là. Château d'eau, réservoir aussi. Mm-hmm. Réservoir de stockage aussi d'eau potable. Avec Sogea Satom, aussi à Cotonou. Avec Sogea Satom pendant à peu près 2 ans. Et puis aussi des projets au Burkina Faso. Avec le siège de, je crois que c'est la BOA, mm-hmm. qui n'est pas loin de l'hôtel qui a été attaqué là. La première fois qu'il y a eu l'attaque terroriste.
J'ai oublié le nom de l'hôtel là, je vois bien.
La Zalaï Hôtel, il y a un hôtel qui était pour nous juste à côté là. Donc le siège de la BOA, et puis après aussi, il y avait des ponts aussi au Bénin. Au Bénin, mm-hmm. toujours avec Satom, et puis quelques projets quand même, dans le siège d'EcoBank aussi au Bénin.
Okay.
Abidjan aussi, c'est le Cobank, mais on était plus deux. Je supportais plus un collègue et qui était vraiment le chat. Donc, tout de suite, là, ça m'a permis quand même d'avoir d'asseoir quand même ce que je voulais faire.
Voilà. Ok, donc c'est à partir de ce moment-là déjà que tu t'es dit que tu vas t'orienter dans le conseil stratégique, quoi.
Oui, conseil stratégique, parce que moi, j'étais toujours peiné. À chaque fois que j'accompagnais les clients, malheureusement, parce que le métier de contrôleur technique, il est très difficile. Pourquoi ? Parce que on doit s'assurer que l'ouvrage répond aux normes, afin de permettre au client d'aller souscrire à une assurance garantie décennale.
Oh oui.
Et donc, en fonction, disons, le niveau d'exécution, la qualité d'exécution de l'ouvrage aura une incidence directe sur la prime d'assurance que le client va payer à la fin. Mais malheureusement, on arrive à la fin du projet. Souvent avec une liste interminable de déficiences et qui faisait que soit on était en dépassement de coût,
oui.
parce que on ne faisait que faire, ben, disons, des observations, mais souvent qui n'étaient pas chiffrées. Or, ces observations, il y a un coût en arrière.
Bien
nous,
sûr.
Dans le contrôle technique, on ne tient pas compte en fait du budget. Là. On n'en comprend que le client, on veut que ce soit dans la règle de l'art. On a un projet là, écoutez, les paramètres d'un projet à coût échéancier, ok, et puis il y a la qualité. Bien entendu,
si je comprends bien, c'est-à-dire que vous contrôlez un projet, le client, il a pris une entreprise pour réaliser les travaux et tout. Maintenant, quand il y a des choses qui ne sont pas bien faites, vous faites des observations. Vous, ça n'impacte en rien, comment on appelle ça, le contrat qui vous lie avec le client. Par contre, le client, comme c'est des travaux à refaire, ça augmente plus son budget.
Non seulement ça augmente son budget, puis ce n'est pas nécessairement des travaux à refaire. Souvent, c'est des oublis. Et souvent, c'est des oublis. Le projet n'a pas été bien ficelé. Mm-hmm. Donc, tout ce qui est exigence technique, disons, n'était pas quand même bien attaché, comme par exemple, ok, je dis n'importe quoi, il installe sur un projet, il prévoit peut-être un transfo peut-être de 100 kVA par exemple.
Mm-hmm.
Okay, et puis il a plein d'équipements dans sa conception, c'est 100 kVA et il arrive sur ce côté avec son dossier qui est déjà monté. Donc il passe les commandes, on arrive chez ce côté qu'on a quand même un département technique là, mais qui va quand même faire, ils ont passé au travers des études, il dit ben non, ça il faut 200 kVA. c'est pratiquement...
Ça,
c'est,
les commandes sont déjà passées.
Ça, exact. Soit les, même si les commandes ne sont pas encore passées, mais c'est les coûts supplémentaires.
Bien
parce
sûr.
Parce que ben, sans KVA, la section des câbles ne seront plus les mêmes. Donc, tout de suite, le projet vient de pratiquement, disons, connaître quand même un dépassement de, disons, budgétaire.
De budget.
Donc, honnêtement, là, ça m'a longtemps quand même fatigué. Ça m'a longtemps peiné quand même de voir les clients en bout de ligne. Ben, on travaille pour eux, mais à la fin, ils ne sont pas satisfaits. Pourquoi ? Parce que finalement, on les faisait trop dépenser. Parce qu'on ne regardait pas l'aspect monétaire derrière. Mmh. Et bon, malheureusement, je ne peux pas changer le management là. C'est comme ça qu'ils sont en train. Écoute, c'est leur business model. C'est ça. Ce n'est pas vraiment l'aspect budgétaire. Et dès que j'ai eu quand même l'opportunité là de quand même faire valoir ce point, ben, j'ai dit, ben, oh, pourquoi ne pas quand même essayer quand même de faire changer les choses ? Aujourd'hui, dans le conseil stratégique, ben, on ne donne pas les conseils pour les donner. Il faut tenir compte pratiquement des paramètres du projet. Là. Et puis, mm-hmm. au-delà même des paramètres, disons, qu'on connaît en tant que gestionnaire du projet, mais il y a d'autres considérations qui sont d'autres politiques, qui sont même aussi impact environnemental. Il y a quand même beaucoup de choses là-dedans. Oh, on ne fait pas que réaliser le projet pour le réaliser, là, en fait, c'est ça.
D'accord. Bon, je pense qu'on va parler plus en profondeur de ça dans la suite. Mais déjà, pourquoi est-ce que tu décides d'aller au Canada ? Après combien d'années ?
Oh, après combien d'années ? Je crois que c'est en 2007 que je suis arrivé au Canada. Donc après, bon, je pense que c'est en 2009, pratiquement. Je dirais pratiquement 7 ans après avoir terminé. Ouais. Donc là, pourquoi est-ce que j'ai décidé de venir au Canada ? Mais c'était au départ déjà en 2011 avec la crise qu'on a connue là.
Donc,
il y avait beaucoup d'incertitudes. Donc, tout de suite, j'avais déjà songé à venir étudier ici. Quand je terminais à l'Université de Sherbrooke, j'avais même commencé à prendre contact avec les professeurs parce que je voulais faire une maîtrise. Mm-hmm. Après, je me suis renseigné un peu, les coûts des études étaient quand même aussi élevés. Bon, moi, je viens quand même
d'une famille modeste. Au Canada, apparemment, c'est vraiment élevé.
Moi, je viens quand même d'une famille modeste. Donc là, je ne pouvais pas vraiment me permettre, disons, de demander à mes parents de pouvoir payer encore les études supplémentaires pour moi. Voilà, parce que mon père, déjà, il partait à la retraite quand j'étais encore à l'INP. Donc, le fait de terminer déjà l'INP, c'était déjà,
disons... Une bouffée d'oxygène pour lui, au fait.
Je peux encore aller lui mettre encore la bouche. OK, ben là, je vais encore... Donc, et au moment là, ça n'allait pas vraiment marcher, là. Voilà, donc, je ne pouvais compter que sur moi-même. Sachant que je n'avais pas également les moyens, donc j'ai dit, ben, OK, peut-être l'une des façons pour moi d'y arriver, c'est de chercher peut-être à m'expatrier ici. Voilà, donc j'ai cherché à venir là. Donc, j'ai fait la procédure comme tout le monde. Mais bien honnêtement, lorsque on a reçu les visas, tout ça, ben, j'avais quand même une situation quand même, disons, très stable, un travail, disons, que j'aimais beaucoup. Et puis, là, je n'étais plus chez Socotec, là, j'étais quelque part chez Bandou. J'étais responsable chargé de la planification et de projet. Mmh. Et donc, là, j'ai travaillé quand même sur un projet aussi intéressant parce qu'il fallait reconstruire l'usine après l'incendie. Donc, c'était vraiment intéressant. Un projet, tu voyais vraiment l'impact pour l'entreprise, aussi l'impact aussi en termes de maintien aussi d'activité et même aussi d'emploi pour les travailleurs. Donc, pour moi, c'était vraiment très, très important. Mais bon. Malheureusement, on a eu quand même le visa. Je ne sais pas malheureusement, là, mais on était là, on a réfléchi un peu. Et puis après aussi, il y avait quand même l'incertitude en Côte d'Ivoire. Après le premier mandat du président actuel,
il était
dans son deuxième mandat, on était en 2017 déjà. On parlait de 2020, ça commençait à devenir un peu…
Oui, au fait, il y avait trop de bruit qui courait.
Beaucoup de bruit qui courait, beaucoup d'incertitude. On avait de l'argent, on n'arrivait pas à investir parce que bon, tu dis, à tout moment, ça peut péter, qu'est-ce qu'on fait ? Bon, OK, peut-être, comme il a dit, il va juste rester pour deux mandats. Bon, pourquoi ne pas aller? Et puis après, quand les choses vont se stabiliser, on reviendra. Donc, c'est ainsi que nous avons accepté de venir. Et on est venu avec, ben, disons, la famille. Bon, après, l'intégration, ça s'est quand même bien fait. Et ça fait 6 ans, on est encore là.
D'accord. Peut-être que vous attendez que le mandat finisse.
Mais non. Bon, je ne savais pas que j'avais... Moi, je n'ai rien vraiment contre le président, surtout que j'étais en Côte d'Ivoire récemment. Là. Et, écoute, ça n'a rien à voir avec ce qu'on a ici, là, honnêtement. Là. En termes d'infrastructure, là, c'est pratiquement... En tout cas, on dépasse quand même de très loin aussi ce qu'on a ici en termes de d'investissement. Donc, moi, je l'encourage et puis je suis vraiment content que dans mon pays, on prend ce type d'initiative là, d'investir massivement dans les infrastructures. Donc, je n'attends pas nécessairement qu'il quitte au pouvoir, mais non, mais il y a d'autres considérations. Parce qu'après, bon, il y a les enfants aussi qui commencent à avoir les amis, qui commencent aussi à aimer, qui commencent à grandir. Donc, les déraciner comme ça, il ne faudrait pas qu'ils soient brutaux. Donc, il y a quand même aussi une planification stratégique derrière. Parce qu'on parle
D'accord.
tout le temps de planification.
Ok. Maintenant, sur ton compte LinkedIn, on peut s'apercevoir que lorsque tu es parti au Canada, tu as fait d'autres diplômes supplémentaires, à savoir le MBA, le CAPM et puis le VMA, c'est ça? Plus le Lead Green Associate. Est-ce que tu peux essayer de nous expliquer un peu, déjà, c'est quoi le contenu de ces formations supplémentaires-là et puis qu'est-ce que ça a apporté en plus à, on va dire, à ta carrière d'ingénieur?
Très bonne question. Mais pourquoi une bonne question? Parce qu'elle permet vraiment de répondre à une problématique que je l'espère, les jeunes frères ou même d'autres personnes qui sont beaucoup plus âgées que moi aussi pourront s'en inspirer quand même afin de pouvoir mieux planifier leur carrière. Parce que la différence entre, ben, disons, ce que je vois ici au Canada et puis chez nous, disons, en Côte d'Ivoire, même en Afrique en général, c'est que la gestion de la carrière est laissée un peu, c'est-à-dire quand tu commences à travailler, mais tu confies plus la gestion de ta carrière à ton
À
employeur.
ton employeur, oui.
Tu attends qu'on
Les
t'offre
promotions.
des promotions, alors que ben non, ça fonctionne pas comme ça. Il faut faire un bilan. Donc, moi, je suis arrivé, je vois un environnement. Donc, aussi, ce qui a aidé, c'est qu'au niveau de l'ordre des ingénieurs, on a quand même cette responsabilité-là de pouvoir faire un bilan de compétences annuel. Donc, afin de pouvoir, ben, disons, regarder un peu les compétences qu'on pourra aller chercher en fonction de là où on veut aller. Donc, le bilan de compétences, ben, m'a envoyé quand même à poser un diagnostic quand même assez clair. D'un point de vue technique, ben, j'ai rien à prouver parce que, bon, je travaille en bureau d'études, j'ai fait de la gestion de projet chez Sogotec, j'accompagne des clients sur le gros mandat. Mais le volet business, le volet management, ben, n'était pas encore assis. C'est-à-dire le volet finance, comptabilité, marketing. Pourquoi est-ce qu'on réalise un projet? Pourquoi est-ce qu'une organisation décide de réaliser un projet? Donc, un projet, disons, quel est l'objectif de ce projet-là? En tant que chargé de projet, ben, on ne fait que suivre les travaux, souvent, très souvent, sans savoir pourquoi est-ce que même l'organisation réalise le projet. Donc, c'est ce qui m'a amené, en fait, à aller faire le MBA que j'ai fait en gestion stratégique de projet. Voilà, afin de pouvoir, disons, m'équiper déjà, renforcer mon coffre à outils, disons, en termes de gestion. Parce que d'un point de vue technique, j'étais quand même, ben, tu peux quand même me taguer d'avoir quand même appris quand même pas mal et puis même aussi exécuté aussi pas mal. Mais en allant chez cette formation, ça permet vraiment de combler cette carence-là. Donc de déjà m'élever à un niveau stratégique. Voilà, afin de pouvoir aider les organisations pour lesquelles je vais travailler à quand même faire aboutir les projets qui permettent quand même de répondre à leur plan stratégique.
OK.
Parce que c'est ça, en fait. Donc, le projet permet à l'organisation de dérouler son plan stratégique. Donc, ce sont des plans d'action, mais qui se traduisent disons, en projet. Et c'est pourquoi je suis allé chercher cette formation MBA-là. Et après le MBA, je fais, disons, le CAPM, je l'avais déjà en Côte d'Ivoire. Hein,
Ah, OK, d'accord.
c'est différent et associé, donc Project Management, qui est le premier niveau de la certification PMP. Voilà. Donc, je l'ai fait ben, parce que j'étais déjà intéressé par la gestion de projet. Je l'ai fait, mais avec moi, avant mon MBA, là. Voilà.
OK.
Donc, pour comprendre, me familiariser avec la gestion de projet, comprendre les outils techniques, pourquoi, c'est quoi un projet. Voilà. Et c'était vraiment le premier niveau, ben, mais non les moindres. C'est un premier niveau, mais quand même, qui est quand même essentiel, là. Dans tout le
D'accord.
processus, disons, des certifications, même PMP, tout ça. Et après ça, j'ai fait mon MBA. Après, j'ai fait le VMA, mais c'est Value Management Associé. Donc, pourquoi est-ce que je l'ai fait aussi? Ben, c'est en m'appuyant tout ici mon bilan de compétences. Et parce que les projets sur lesquels je travaillais en tant que chargé de projet, gestionnaire de projet, parce que j'étais conseiller stratégique. Non, j'étais pas conseiller stratégique, j'étais conseiller en gestion de projet. Voilà. Avant le poste que j'occupe actuel. Conseiller en gestion de projet. Et en tant que conseiller en gestion de projet, je travaillais sur le projet de construction, disons, d'un pavillon universitaire pour l'université McGill, ici à Montréal, sur le plateau Mont-Royal. Et j'étais
OK.
project control officer, donc contrôleur de projet. Et l'aspect coût avec une très, très, disons, avec une forte importance quand même dans mon travail, pratiquement tous les jours là. Donc, il fallait faire le suivi budgétaire, faire le suivi des coûts, préparer les tableaux de bord, s'assurer vraiment que le projet est aligné. Et l'analyse de la valeur est un outil qu'on utilise dans les projets afin d'aller, je ne dirais pas rationner, mais quand un projet veut dérailler en termes de budget ou même de
Oui.
ressources, on fait l'analyse de la valeur pour essayer de comprendre qu'est-ce qui est superflu, de quoi est-ce qu'on peut se passer dans
Sans
le contenu
toucher, on va
actuel
dire
du projet.
quoi, le cœur du projet même.
Exactement. Tout en permettant au projet de toujours répondre à ce pourquoi est-ce qu'on le fait. Voilà. Donc, on peut aller peut-être retirer certaines fonctionnalités sans pour autant faire perdre la valeur au projet.
Oh
Donc,
oui.
l'analyse de la valeur, c'est un outil, en fait. C'est juste un ensemble d'ateliers, en fait. On fait des ateliers avec des parties prenantes et puis ben, on essaie de passer en revue ce qu'on appelle en Côte d'Ivoire, ce qu'on appelle ça, c'est le devis, c'est ça? Non, non, pas le devis, c'est le contenu d'un projet, c'est pas, qu'est-ce qu'on
Le
appelle
cahier de charge.
ça, le cahier des charges. Donc, on
OK.
passe, on a un cahier des charges fonctionnel, mais ici, on parle plus de devis. On a que, c'est pratiquement l'Amérique du Nord, là. Devis, c'est plus les quantités, mais ici, devis,
Si,
c'est autre
si.
chose, là.
Ah,
Donc, le
OK.
cahier des charges, on passe au travail du cahier des charges, on essaie de voir les fonctionnalités, voir, OK, mais si on retire tel élément, est-ce que le projet est toujours viable? Est-ce que le projet pourrait répondre à ce pourquoi est-ce qu'on le réalise pour les utilisateurs finaux? Donc, ça permet vraiment d'aller soit sauver des coûts quelquefois ou même sauver, ben, disons, gagner en termes de ressources. Donc, c'est plus un travail d'optimisation. Voilà.
D'accord.
Et après le VMA, j'ai fait, je crois,
Le
c'est
lead green
Lead
associate.
Green Associate. Pourquoi? Ben, dans mon rôle actuellement, ben, actuel de conseiller stratégique en planification de projet, le développement durable a quand même un volet important. Et moi aussi, qui me touche. Parce que même durant mon MBA, ben, j'ai travaillé quand même, on a pris des cours de développement durable et ça a eu quand même un fort impact, ben, sur ma façon de voir les choses désormais. Voilà. Donc, moi, réaliser des projets tout en tenant compte quand même de l'environnement dans lequel le projet se réalise afin de donner quand même l'opportunité aux générations futures de bénéficier de ce à quoi on bénéficie actuellement est pour moi très, très, très important. Donc, c'est pourquoi j'ai laissé cette certification qui permet essentiellement de tenir compte du développement durable dans les projets. Donc, comprendre, mais c'est quoi, comment est-ce qu'on peut s'organiser afin de pouvoir réaliser le projet, mais que le projet permette vraiment de répondre aussi, que le projet n'agresse pas son environnement, l'environnement immédiat. Là. Donc, tenir compte
D'accord.
des paramètres afin de pouvoir quand même livrer des projets verts, si on peut le dire ainsi.
OK. Bon, là, je me rends compte que tout ce que tu as fait comme formation complémentaire, c'était quelque part à un niveau de ta carrière, tu t'es rendu compte que tu as besoin de telle ou telle chose et c'est ce qui t'amène à faire
Absolument.
tel diplôme.
Absolument, absolument,
Maintenant, le
absolument.
constat, par
Et juste
exemple,
ce point, hein, ce
oui.
point avant la question, je ne sais pas si tu vas me la poser là, mais est-ce que je te tutoie déjà en partant, c'est bon? Je te tutoie?
Non, vas-y, vas-y.
OK. Donc, en partant, le conseil que moi je peux donner, c'est que souvent, on voit des personnes qui font beaucoup de certifications, beaucoup de diplômes, mais souvent, il n'y a pas de corrélation. Et puis, c'est souvent aussi mal vu. Parce qu'il n'y a pas de cohérence. C'est pas, on veut juste les acquérir, les, disons, pour en acquérir. Mais il faudrait que ça puisse vraiment te permettre de répondre
À
à
un
certaines
besoin.
demandes. C'est ça. Et puis aussi, il faut une certaine cohérence. Et après, ça te permet vraiment, disons, de bâtir nos statuts. Disons, une statue qui permet quand même de nourrir plus tard des réflexions que tu pourras avoir. Donc, ça pourra quand même beaucoup contribuer, disons, à l'avancement de la carrière. Donc, ça, c'est très important de ne pas faire parce que l'autre a fait ou ben, parce que c'est une certification disons, laquelle on parle tout le temps. Donc, il faudrait également que je la fasse. Non, ça ne va pas
D'accord.
fonctionner comme ça. Ouais.
OK, en tout cas, merci pour ce conseil. La question que je voulais poser, c'était, en fait, faire une comparaison entre le Canada et la Côte d'Ivoire. Par exemple, ici, j'imagine qu'il y a d'autres personnes qui veulent acquérir d'autres compétences et tout, mais quand tu regardes l'environnement, c'est pas évident en fait d'avoir déjà une école qui propose plus ou moins des formations de qualité, ou bien même quand c'est proposé, peut-être que le coût fait qu'il y a beaucoup qui ne le font pas. Pourtant, au Canada, j'imagine que c'est pas pareil de tes deux expériences en Côte d'Ivoire et puis au Canada. C'est quoi la différence? Est-ce que c'est pas dû au fait que tu sois au Canada qui t'est amené à déjà faire toutes ces certifications-là? Et aussi, dans notre environnement actuel en Côte d'Ivoire, comme tu l'as si bien dit, on est dans les projets, on contrôle soit pour contrôler, ainsi de suite. Donc, tu ne vois pas toutes ces améliorations que tu peux apporter. Donc, et quel est ton avis sur ça?
Bonne question. Je pense qu'effectivement, ça dépend de l'environnement. Juste en partant, je reprendrai tout de suite comme ça, mais je vais mettre un petit bémol. Parce que moi, la certification, le CAPM, je l'ai fait en Côte d'Ivoire.
Oui.
Donc, même avant d'arriver ici, j'avais déjà cette vision stratégique-là. Genre de bâtir moi-même ma carrière. C'est pas l'employeur. Et souvent, on se limite, on se dit, ça coûte cher. Alors, la formation, quand je l'ai fait, ça va coûter quoi? 1 million, 1 million 2, 1 million 3.
Le
C'était même.
CAPM.
Oui, le
Ah, OK.
CAPM, je l'ai fait avec NCA Technologies, et puis j'ai fait la formation, et puis après, j'ai passé la certification avec eux. Mais tout est une question, disons, de ce que tu veux faire. Voilà, il faut s'organiser. Aujourd'hui, bon, on voit les jeunes, bon, ça dépense, ça paye souvent des choses qui ont très peu de valeur, surtout une valeur qui n'est pas pérenne. Une valeur, disons, à court terme, là, peut-être acheter une grosse voiture. Mais tout ça, il faudrait quand même pouvoir aller à l'essentiel au début. Au début, quand tu bâtis ta carrière, il faudrait vraiment pouvoir aller à l'essentiel, là. Donc, il faut investir. Ne pas attendre toujours. C'est vrai que l'environnement, il y a pour quelque chose, mais aujourd'hui, on a la chance d'avoir la technologie. On a la chance d'avoir Internet. Moi, j'ai étudié mon MBA. J'étais au Canada, l'Université Laval est à Québec. Avant d'obtenir mon diplôme, je n'avais jamais mis les pieds même à Québec. J'ai fait ma formation, mais je ne dirais pas à distance parce que les cours sont en ligne, mais on compose en salle avec même les personnes aussi qui prennent les cours aussi à l'université. On se retrouve dans la même salle, on compose. Donc, tu as le choix. Soit tu vas sur le campus ou tu te connectes sur la version web, mais c'est le même cours. Le professeur donne le cours, il se filme, après, la vidéo est disponible. Donc, aujourd'hui, on a la chance. Et moi, je connais des gens en Côte d'Ivoire. C'est pas pour dire. Ils sont encore à Abidjan, là, et qui ont fait le MBA aussi. En étant là-bas, ils ne sont pas ici. Mais ils ont investi, ils ont fait le MBA aussi à l'Université Laval. Ils ont obtenu le diplôme. Ils sont restés à Abidjan. Et ils ont obtenu également des promotions dans leur carrière, ils avancent. Mais il faut mettre les moyens. Et ils ont payé la formation de leur poche. Moi, j'ai payé ma formation. J'ai payé ma formation. Donc, en termes de Côte d'Ivoire, Canada, je ne dirais pas que l'environnement, il y a pour quelque chose. Mais aujourd'hui, il y a peut-être 10-15 ans, on aurait eu cet argument. Mais disons, pouvait être mis sur la table. Mais aujourd'hui, non. Parce qu'on a Internet. De partout dans le monde, là, mais on communique. La preuve, toi et moi, on se parle. Parce
Oui, bien
qu'avant,
sûr.
c'est pas évident.
C'était pas évident, ça.
Le téléphone, et puis, ça coûtait cher. Mais aujourd'hui, écoute, juste avec le Wi-Fi, chez toi, chez moi, on a cette conversation, et puis, les autres personnes pourront bénéficier. Disons, pourront en bénéficier. Donc, je pense que il faudrait pas se limiter aux imperfections. Disons, de son environnement immédiat. Mais il faut trouver le moyen de profiter disons, des outils qui existent déjà et souvent qui ne coûtent pas cher. Moi,
Les
j'étais à
utiliser à bon
Abidjan en
escient, en
vacances.
fait.
Exactement, moi, j'étais à Abidjan récemment et puis il y a la fibre optique. Là où je suis resté, même pas une seule fois, Internet a bloqué là. Non.
Si,
La
si.
fibre optique, les gens regardent Netflix, mais c'est du haut débit. Mais autant l'utiliser pour, disons, te former. En prenant les cours, disons, à n'importe quelle université, puis il y a des MOOC aussi maintenant, là. Massive Online Open Courses.
Si, si, je vois.
C'est ça, c'est gratuit, tu peux te
Il y
former.
en a de gratuits avec des certificats payants et tout. Donc,
Certificat payant, tu fais la formation après, tu payes pour la certification. Donc, ne pas hésiter vraiment à le faire, quoi.
d'accord. OK. Donc, après avoir parcouru, on va dire quoi, tes formations et ton parcours, on va maintenant parler de conseils stratégiques en gestion de projet. Déjà, c'est quoi le conseil stratégique en gestion de projet?
Stratégique en planification de projet,
Oui, en planification de projet, pardon.
mais c'est Mais je vais plutôt dire un peu ce que je fais comme travail. Peut-être que ça permettra quand même de comprendre exactement à quoi est-ce que correspond ce poste. Je
OK.
suppose au sein de disons, de la Société québécoise d'infrastructure, ce poste, disons, permet quand même d'occuper différentes positions. Voilà, donc peut travailler, les financiers peuvent occuper ce poste, les juristes, les ingénieurs, en tout cas, pas mal de profils peuvent avoir ce poste-là. Mais moi, à titre de conseiller stratégique en planification de projet, mon rôle, c'est essentiellement, disons, de m'assurer que les projets en mode alternatif, je ne sais pas si des projets en mode alternatif, c'est-à-dire des projets de conception, construction, c'est les modes de réalisation de projets. Souvent, à Abidjan, on parlera des PPP, probablement que tu en as entendu parler là. Partenariat
Partenariat
public-privé.
public-privé, ouais.
Ça, c'est un type, en fait, disons, de mode alternatif. Nous, ici, au Québec, en tout cas, au Canada, on en fait vraiment très, très peu. Mais sinon, quasiment pas. Mais on parlera plus de conception, construction et d'autres modes aussi innovants. Donc, moi, je travaille essentiellement sur ces modes de réalisation-là. Donc, qui permettent, disons, essentiellement d'aller chercher une valeur ajoutée, disons, importante en termes d'innovation. Innovation pour le projet et puis aussi avec une certaine caractéristique. Donc, mon rôle en tant que conseiller stratégique en planification du projet, c'est justement m'assurer que la stratégie du gouvernement dans la réalisation de ces projets-là est prise en compte. Voilà. Donc, je mentionnais tout à l'heure que un projet n'est pas réalisé au hasard. Le projet, il répond habituellement à une planification stratégique. En fait, c'est pratiquement l'aboutissement d'une planification stratégique. Et le plan d'action d'une stratégie inclut la réalisation des projets. Donc, ce sont des projets qui permettent de reprendre un plan d'action qu'on s'est donné. Et donc, moi, mon rôle, justement, c'est de quand même camper, disons, de comprendre déjà cette stratégie du gouvernement et de m'assurer que les projets qui sont réalisés, qui sont réalisés à l'intérieur quand même d'une certaine orientation stratégique permettent toujours de répondre à cette stratégie. Voilà. Donc, c'est vraiment un niveau, disons, supérieur. Je ne suis pas vraiment dans l'exécution, je ne suis pas dans l'exécution du projet, disons, au jour le jour, mais dans la planification. C'est-à-dire tout ce qui est autorisation du projet, autorisation de lancer le projet, il y a quand même des dossiers d'affaires qui sont montés, les dossiers d'affaires qui permettent quand même d'aller justifier ce pourquoi on réalise le projet, en fait, simplement. C'est un document dans lequel on explique mais pourquoi est-ce qu'on veut réaliser le projet et pourquoi est-ce qu'on pense que l'option qu'on choisit pour ce projet est la meilleure option. Pourquoi est-ce que, ben, comment est-ce qu'on va s'assurer quand même pour financer ce projet-là? C'est ce qui est intéressant, en fait. C'est-à-dire, ce n'est pas celui qui réalise le projet, celui qui paye, qui doit te dire comment est-ce qu'il paye, mais c'est toi qui emmènes le projet, qui permet de répondre à la stratégie du gouvernement, tu dois dire comment est-ce que tu le finances. Donc,
D'accord.
moi, ben, à terme, là, j'aimerais que mon pays, en tout cas, puisse profiter quand même de cette façon de voir les choses, là. Voilà, de ne pas que ce soit seulement top-down, seulement d'en haut en bas, mais il faudrait que la base comprenne exactement aussi que ben, on ne peut pas réaliser n'importe quoi. Donc, il
Si
faudrait quand
je
même.
comprends bien, si je comprends bien, tu es, on va dire quoi, comme une interface entre, on va dire, le gouvernement, le plan du gouvernement pour. On va dire la réaction des différents projets et puis les différents promoteurs, c'est ça?
Promoteur, en fait, nous sommes une agence un peu au même titre, une agence miroir du Bennett. Si ça peut faciliter quand même la compréhension.
OK.
Mais on n'est plus que le Bennett, en fait. On ne fait pas. Le Bennett exécute assistance à maîtrise d'ouvrage dans tout ce qui est réalisation. Et puis, ben, finalement, la décision en Côte d'Ivoire est prise par soit le cabinet du Premier ministre ou n'importe qui. Là. Et puis,
Tout à
ben, le
fait.
projet est autorisé, allez, on s'en va, t'as rien à dire. Là. Mais ici, c'est différent. On a ce qu'on appelle le plan québécois d'infrastructure. C'est un portefeuille. Le portefeuille, ben, pas un portefeuille, mais le portefeuille du projet du gouvernement. Donc, où tous les projets d'infrastructure sont répertoriés, avec des budgets et puis aussi les autorisations qui vont avec, et aussi, disons, les délais d'exécution, et puis l'étape dans laquelle on se trouve. Et dans le plan québécois d'infrastructure, ben, où les projets sont répertoriés, on dit exactement dans quelle catégorie, en fait, le projet se situe. Et la catégorie est souvent, disons, déterminée par l'orientation stratégique. Donc, si le gouvernement décide, par exemple, OK, les 3 prochaines années, on veut quand même réhabiliter 50 ou 75% des écoles qui sont de telles catégories. On s'entend que dans le plan stratégique, disons, dans le portefeuille de projet, mais la plupart des projets seront des projets de réhabilitation. Mais quand on va réhabiliter, il faudrait également prendre en compte certaines orientations qui peuvent être soit des développements durables. Le gouvernement peut-être voudra peut-être avoir des écoles qui sont certifiées, peut-être LEED or, LEED argent. Donc, il faudrait quand même camper cette position-là, comprendre pourquoi est-ce que le gouvernement veut s'en aller là, en fait. Parce que certainement qu'on a quand même des indices de développement durable, on doit peut-être baisser certains ratios en termes de pollution. Donc, on veut quand même, en réhabilitant 75% de notre parc scolaire, cela permettra quand même de répondre à une cible de développement durable. Ça, c'est vraiment un exemple pour comprendre exactement. Donc, moi, mon rôle, c'est d'être à la limite, disons, en partenariat avec les chargés de projet, qui sont les gestionnaires de projet, qui gèrent ces projets-là, m'assurer qu'ils comprennent très bien, ils comprennent très bien, en fait, disons, cet élément-là, de réaliser le projet vraiment dans les paramètres, surtout de l'orientation corporative, l'orientation vraiment que le gouvernement s'est donnée. Voilà, donc c'est un peu un chien de garde en fait de tout ce qui est orientation stratégique du gouvernement.
Ok, maintenant les gestionnaires de projets dont tu parles, eux ils sont de quel côté? Parce que toi
Ils
tu.
travaillent dans la firme, ils travaillent dans la même firme dans laquelle je suis, mais ils ne sont pas dans la même direction.
Ah
Moi,
ok, d'accord.
je suis dans la direction stratégique des projets spéciaux. Voilà, donc le nom, disons, dit, disons, le nom déjà, disons, te permet déjà de comprendre ce qu'on fait. Voilà.
Ok,
Nous, on travaille.
si je veux récapituler, hein, c'est-à-dire que l'État a un portefeuille de projets à réaliser. Et puis dans la firme, il y a, on va dire, des gestionnaires de projet. Ce sont eux qui sont censés réaliser, suivre le projet. Mais avant de passer à la réalisation, il faut que ça passe d'abord dans votre direction pour vous assurer que tout le projet s'est réalisé en accord avec tout ce qui est attente de l'État concernant le développement et tout.
Exact. Ben,
Ok, d'accord.
ce n'est pas nous qui montons le dossier. Il y a une autre direction qui va monter, disons, le dossier d'affaires. Et il y a une direction dans laquelle les gestionnaires de projet se trouvent. Et moi, je suis dans ma direction. Et moi, mon rôle, il est central, en fait. C'est quand même assurer que les deux acteurs comprennent la stratégie qui est en arrière.
OK.
Voilà. Donc, que l'orientation corporative ou l'orientation gouvernementale est toujours bien comprise et puis est toujours également respectée. Durant tout le projet, durant tout le processus.
Mais est-ce que dès que c'est validé et qu'il y a l'accord et tout, ça veut dire que toi, ton rôle s'arrête là? Ou bien
Non, non, non,
tu
non, non,
suis en
absolument pas.
arrière?
Absolument pas. Mais aussitôt que le projet est approuvé, il faut l'exécuter. Et j'expliquais tout à l'heure que je travaille plus sur les modes alternatifs, donc qui sont conception, construction ou d'autres modes. Donc, ce sont des processus qui sont quand même assez complexes parce que il y a beaucoup de collaboration et puis. Il y a très peu de personnes quand même donc qui savent souvent comment ça fonctionne. Donc, aussi bien dans le processus d'approvisionnement que dans la façon même de faire, disons, de collaborer avec les parties prenantes. Donc, mon rôle aussi à ce stade-là, c'est de quand même m'assurer que le processus est bien compris. Parce qu'il y a beaucoup, je dirais pas, disons, s'assurer quand même que le processus reste intègre du début jusqu'à la fin. Voilà, qu'il n'y a pas d'avantage indu qui est donné à peut-être un soumissionnaire, c'est-à-dire quelqu'un qui soumissionne une entreprise par rapport à une autre. Donc, il faut quand même garder cette intégrité-là du début jusqu'à la fin. Et sinon, ce qui pourrait arriver, s'il y a un vice majeur, le processus pourrait être arrêté. Et puis, tout ce qui a été investi pour faire de la conception, tout ça, c'est perdu. Voilà. Donc, il faudrait vraiment s'assurer que le processus, quand on le démarre, on va jusqu'au bout. Parce que si on ne va pas jusqu'au bout, on s'arrête en cours de route. Et c'est une perte pour le gouvernement, parce que finalement, c'est le gouvernement qui va payer ou tout ce qui a été dépensé par les firmes pour pouvoir développer le concept, faire de la conception. Et ça peut durer quand même des mois, là. On parle d'un processus qui peut s'étendre sur souvent un an, pratiquement en gros. Donc pendant un an, il y a beaucoup de personnes qui travaillent sur ces dossiers-là. Il faudrait quand même s'assurer que le processus n'est pas arrêté, n'est pas interrompu pour n'importe quelle raison.
D'accord.
Voilà.
Maintenant, tu avais dit que au Canada, les partenariats, PP, le projet PPP, était presque rare. Maintenant, c'est dû à quoi?
Ben, il y a ce qu'on appelle, ben, disons, la stratégie, comme je l'ai mentionné, là, du gouvernement. Et puis, le gouvernement regarde beaucoup plus l'acceptabilité sociale de ce qu'il fait. Il tient compte quand même disons, de ce que le public pense, les électeurs. Et le partenariat public-privé, il y a des projets qui ont été réalisés, mais le retour n'était pas favorable parce que ça donnait un peu une espèce, mais ça donnait quand même, disons, j'allais dire, l'impression que, parce que les projets PPP, on ne connaît pas la valeur des projets qu'on réalise là.
Si, si.
C'est ça, on ne connaît pas encore
le,
la valeur.
Le promoteur, il fait son étude, il vient, il réalise et puis…
Il réalise et puis après, il te donne le montant et puis bon, il paye soit un contrat de concession, 20, 30, 40 ans, mm-hmm. puis ben, on paye. Mais tout ça, c'est un coût là. Et souvent, disons, le public ben, a tendance en tout cas à penser que c'est un peu une carte blanche qu'on donne en fait au promoteur. Donc finalement, il nous donne son prix et puis on est obligé de payer là. Voilà. Donc, c'est pourquoi ça n'a pas, en tout cas, une bonne cote ici au Québec, mais comment en Ontario, ils réalisent des PPP. Mais nous, ici, c'est pour dire que ce n'est pas des PPP, mais on a des processus, des modes de réalisation qui tirent une bonne part, mais disons, qui a pris pratiquement le contenu, c'est-à-dire les façons de faire des PPP, beaucoup d'outils qui viennent des PPP sans pourtant être des PPP, en fait. Donc, on ne fait pas dans l'entièreté. Mais il y a des outils qui sont très bons, comme la collaboration, pour quand même s'assurer que le client, il embarque, ben, disons que le promoteur et le client embarquent ensemble afin de mieux comprendre ce que le client veut. Parce que sinon, ce qui arrive quand le promoteur est de son côté, il fait la conception, après il vient livrer, il livre et puis ben non, mais c'est pas ça, c'est pas ce qu'on avait prévu parce que le client n'était pas impliqué. Mmh. Donc, ouais.
Est-ce à dire que dans le PPP, par exemple, le conseil stratégique en planification n'intervient pas en tant que tel? Parce que je me dis que, certes, le promoteur il vient avec son projet, mais étant donné qu'il y a une direction qui est chargée de s'assurer de la concordance des, comment on appelle, des objectifs du projet avec les objectifs de l'État, est-ce que ça ne peut pas canaliser ça, au fait, pour éviter les dérives?
Non, effectivement, ça canalise. Pourquoi je parlais tout à l'heure d'acceptabilité? Parce qu'ici, on fait beaucoup attention à ce que le public, à ce que les électeurs pensent. Donc, quand un projet qui a été réalisé dans un mot donné, il y a des journalistes, il y a ce qu'on appelle ici la loi, l'accès à l'information, c'est-à-dire n'importe qui. Même toi, tu peux demander, tu peux questionner un organisme public voulant consulter tel document ou tel contrat, ben, ils vont te le donner. Et après, bon, ce qui est écrit dans les contrats, souvent, donc, quand on voit les montants qui ont été dépensés, peut-être pour tel projet, ben, qu'on voit, on dit, ben, ah, mais non, mais c'est pas normal. Donc, ça crée quand même beaucoup de problèmes, beaucoup de discussions inutiles. Mais comme je l'ai dit, c'est vrai qu'on ne réalise pas, on ne l'appelle pas PPP, mais il y a des modes qui sont alternatifs
qui ressemblent un peu à ça.
Exactement, qui ressemblent vraiment très, très au PPP, ben, qui nous permettent quand même de réaliser le projet en mode alternatif.
D'accord. On va parler de l'un des modes alternatifs, par exemple la conception, construction et puis quoi d'autre?
Il y a conception, construction, il y a conception, construction, financement, il y a conception, construction, financement, exploitation, il y a conception, construction, financement, exploitation, entretien.
OK.
Exact.
La question que je veux poser concernant ça, est-ce que c'est-à-dire que c'est à peu près le même mode de, en phase de construction, le même mode de fonctionnement comme chez nous? Par exemple, tu as pour un projet d'infrastructure, on aura, comment on appelle ça, le maître d'ouvrage qui est là. Il a sûrement un maître d'ouvrage délégué, l'entreprise qui va faire les travaux. Et puis, il y a soit une mission de contrôle, mais un bureau de normalisation des risques. C'est pareil là-bas ou bien ça se passe comment?
Bah, ici, on n'a pas de bureau de normalisation des risques déjà. Parce que, il y a la responsabilité de celui qui construit est engagée.
Okay.
Donc, on fait confiance à chacun des acteurs. Voilà, donc, l'entreprise qui réalise les travaux a la responsabilité de s'assurer que les travaux sont conformes. C'est une autre mentalité, là.
Non, mais, en fait, j'ai ri parce que J'imagine un peu chez nous ici, tu dis à l'entreprise, bon, tu es responsable des travaux que tu réalises, je ne sais pas ce qu'on va voir.
C'est pourquoi j'ai dit, c'est une autre mentalité. C'est pourquoi moi, quand je suis arrivé ici, honnêtement, au départ, j'avais un peu du mal à comprendre comment ça fait. Parce que moi, j'étais contrôleur technique, je comprends le rôle. J'ai dit, ben, il faut surveiller l'entreprise, il faut à la limite, mettre un policier vraiment en arrière pratiquement tout le temps. Là. Sinon, moi, je peux fouiller, mais non. L'entreprise a la responsabilité de livrer un ouvrage conforme aux normes, aux exigences, disons, qui sont dans le contrat, qui sont des exigences contractuelles. Mais n'empêche quand même qu'on mette en place un certain nombre de processus pour s'assurer, un peu de processus de contrôle qualité, pour s'assurer quand même que les travaux sont faits correctement, pour s'assurer quand même que le processus aussi avance, disons correctement, on est dans les budgets, c'est pourquoi il y a la gestion de projet. Voilà, donc il y a quand même aussi, disons, l'entrepreneur par exemple, on peut lui exiger d'avoir, disons, des ingénieurs en surveillance, surveillance des travaux. Mmh. Et l'avantage aussi, pourquoi est-ce que c'est fait comme ça? Parce que les ordres professionnels, notamment l'OIQ, sa mission première, c'est de protéger le public. Et en protégeant le public, les ingénieurs qui sont membres de l'OIQ ont la responsabilité de protéger le public parce qu'ils font partie de l'ordre professionnel. Donc, ça fait qu'un ingénieur, même s'il travaille pour une firme, la firme qui le paye, mais il y a des choses qu'il ne peut pas faire. Il doit faire son travail correctement, même s'il est payé par une firme, mais il y a des responsabilités, en tout cas, qui sont disons, exclusives aux ingénieurs, comme disons, la surveillance des travaux qui est disons, faite par un ingénieur. Et il ne peut pas cacher un certain nombre de choses. Il va faire son travail, mais sinon, il risque de perdre son permis, en fait. Et en perdant son permis, ben, il ne pourra plus exercer.
Ouais.
Voilà, donc, c'est vrai qu'il est payé par l'entreprise, mais il a un certain nombre d'obligations vis-à-vis de son ordre professionnel.
Il doit jouer son rôle d'ingénieur, en fait. C'est-à-dire que...
Il doit jouer son rôle d'ingénieur.
Non, c'est toi le responsable, ce n'est pas l'entreprise.
Ce n'est pas bon. Et puis, en plus, là, il ne répond même pas devant l'entreprise, là, parce qu'il peut être poursuivi individuellement. C'est-à-dire, pas l'entreprise, là, mais en cas de faute, il peut être poursuivi. Sa responsabilité individuelle peut être engagée.
OK.
Voilà, donc ça fait que, ben, en fait, très attention, et puis les gens sont... Tu l'obliges à faire quelque chose, c'est pas bon, il te dit non, deux fois, ben, il quitte là, ou bien il peut dénoncer, et puis, ben, quitter là, en fait. Il n'est pas obligé de le faire.
Mmh.
Donc, ce climat, quand même, permet... le climat que nous avons permet, quand même, de fonctionner de cette manière. Mais je comprends que ça ne peut pas tout fonctionner, disons, dans un environnement comme peut-être en Côte d'Ivoire ou bien même en France. En France, c'est une dynamique parce qu'on a quand même le système qui est copié de la France.
Si.
Où il y a le contrôle technique, il doit faire de la police, derrière tout le temps. Non, ici, ça ne marche pas comme ça.
Oui, mais je me dis que le fait qu'il y ait un ordre des ingénieurs aussi, avec possibilité pour les ingénieurs de perdre leur titre d'ingénieur ou bien leur possibilité d'exercer, ça a un poids énorme.
Énorme. Et même, il y a une loi, il y a la loi sur les ingénieurs. Tu t'imagines, là? Il y a une loi qui encadre l'exercice du métier d'ingénieur. Donc, et cette loi, c'est cette loi qui permet de définir la responsabilité d'un ingénieur. Et on prête serment pour. Donc, ça fait que, mais si tu ne respectes pas tes engagements, mais tu peux perdre ton permis. Et même, il peut y avoir des poursuites criminelles.
Oui, j'imagine avec nous, les effondrements qu'on a connus ici, si il y avait quelque chose comme ça, c'est clair qu'on n'aurait plus des gens qui confient des immeubles d'habitation à des personnes qui n'ont pas le niveau et tout, quoi.
Exact. Et là, il peut y avoir des poursuites criminelles. C'est-à-dire, un ingénieur, par exemple, en Côte d'Ivoire, qui signe un plan ou qui fait les calculs, qui a un plan dessous de table, et puis bon, il ne prend pas quand même le soin de faire un suivi, ou il fait ça un peu n'importe comment. Le bâtiment s'effondre, sa responsabilité est engagée.
Ouais.
C'est pourquoi ici, ben, on a un sceau, l'ingénieur il a un sceau, il a son numéro. Si y a un plan là, ben, tu dois mettre ton numéro. Donc s'il y a un problème, ben, avec le plan de la bâtisse là, ben, on voit ton numéro, on sait c'est quel ingénieur qui a travaillé sur ce dossier là. Et puis il doit répondre.
Je pense que l'existence des, on va dire, des textes pour normaliser, canaliser tout ça et puis leur respect, c'est vraiment un point important qui
Essentiel, c'est
permet tout ça.
essentiel, essentiel.
Parce que tu es au courant, hein, ça fait longtemps qu'on lutte pour l'ordre des ingénieurs ici, mais bon.
Ouais, mais ça marche pas. Non, mais ça, mais pourquoi est-ce que ça marche pas aussi chez nous là? Parce que l'un des éléments, c'est que chacun veut avoir le lead. C'est-à-dire, l'ordre des ingénieurs, on veut créer l'ordre des ingénieurs, génie civil, l'ordre des ingénieurs, l'ordre des ingénieurs informaticiens, télécom, mais ça marche pas. On a un seul ordre professionnel ici, un seul ordre des ingénieurs
Ah
ici.
bon, ça par contre c'est nouveau pour
Mais oui,
moi.
c'est un seul ordre professionnel pour tout le monde. Parce qu'un ingénieur, c'est un ingénieur. Maintenant, après, il y a les spécialités. Mais après tout, tu es ingénieur, point. Ce n'est pas ingénieur, génie civil, mais tu es un ingénieur. Voilà. Donc, on est tous dans le même ordre professionnel. Donc, il n'y a pas, disons, cette clanisation-là. Non, ça n'existe pas. Et c'est ce qui nous fatigue, en fait. Sinon, je sais qu'en Côte d'Ivoire, l'ordre des ingénieurs industriels là, est quand même bien structuré.
Oh
Ils
oui,
tiennent des
si.
rencontres. Ils tiennent, en tout cas, des assemblées générales. Mais nous, on veut faire bande à part. Mais pourquoi ne pas quand même faire un rapprochement et puis proposer d'avoir un ordre professionnel pour tous les ingénieurs? Parce que ça existe déjà.
Ouais.
Pourquoi voulons-nous en créer? À moins de créer, en fait, un autre, alors qu'il y a un autre qui existe,
Qui
parti sur
existe
un
et qui
seul
marche bien.
expérience, qui marche bien. Marche bien. Et même, tiens-toi bien, ça fait que tu ne peux pas te faire appeler ingénieur si tu n'es pas membre de l'ordre des ingénieurs. Ce n'est pas parce que tu as la formation d'ingénieur que tu es ingénieur.
Ça veut dire que quand tu es parti, tu n'étais pas, on va dire,
Non, je ne peux pas me faire
ingénieur.
appeler
Tu ne pouvais pas
ingénieur.
te
Non,
faire
non,
appeler
non, non.
ingénieur.
Non, c'est fini là. J'étais là, je ne peux pas me faire appeler ingénieur. Jusqu'à ce que je sois membre de l'ordre des ingénieurs. Mais j'ai fait une formation en ingénierie. J'ai un bac, bon, un baccalauréat, c'est le diplôme d'ingénieur, disons, bac plus 4, bac plus 5. Et donc, j'ai un diplôme en ingénierie, mais je n'étais pas ingénieur encore. Donc, pour être ingénieur, il faudrait être membre de l'ordre des ingénieurs, membre en règle de l'ordre des ingénieurs. Voilà. Donc, ça c'est un chamboulement, là. Si on veut apporter ça, ben, il y a beaucoup de, je comprends qu'il y a beaucoup de personnes qui vont déchirer la chemise, là. Parce que, ben, si t'es pas membre, ben, tu peux pas te faire appeler ingénieur.
Tu peux pas te faire appeler ingénieur ni exercer en tant qu'ingénieur. Je pense que
Non.
c'est un peu ça.
Non. Tu peux avoir une maîtrise en ingénierie, tu peux avoir un diplôme en ingénierie. Donc, on peut être diplômé en ingénierie de génie civil. Mais pour être ingénieur, tu dois être membre de l'ordre des ingénieurs.
D'accord. C'est deux réalités complètement
Non,
différentes.
complètement, complètement différent. Puis je comprends que ce n'est pas évident parce qu'il y a quand même beaucoup de pression, comme, disons, politique, quand même, disons, qui rentre aussi en
Sous
ligne
nos
de compte.
tropiques ici, oui.
Oui, absolument, absolument. Donc, ce n'est pas évident.
D'accord. Pour revenir au conseil stratégique, j'ai encore une dernière question. Est-ce
Ouais.
que durant l'exercice de tes fonctions, et il y a eu certains projets qui ont dû être récalés pour une raison ou pour une autre.
Mais on s'entend que je vais pas nommer
Non,
parce que
pas
ça
citer le projet,
déjà.
mais essayer
Si
de
quand
donner
même,
des. Ouais.
oui. Mais oui. Il y a des projets quand même, disons, qui ont dû être, disons, arrêtés ou bien, disons, recadrés, mais parce que, disons, je parlais tout à l'heure d'orientation stratégique, là. L'orientation qui était prise n'était pas celle qui avait été définie au départ. Donc, ils n'ont pas vraiment hésité, ben, disons, à arrêter le projet complètement, ou, disons, redéfinir le contenu du projet, réaligner le projet, en fait, sur, disons, d'autres paramètres. Voilà. Donc, c'est des choses qui arrivent. Des choses qui arrivent. Et puis, je pense que nos pays, et spécialement la Côte d'Ivoire, gagneraient à aller dans ce sens-là. Parce que malheureusement, on voit beaucoup de projets, on voit des choses qui se font, mais il n'y a aucune visibilité. Pourquoi? Ben, je ne sais pas si c'est fait exprès. Faut quand même amasser, disons, beaucoup. Parce que quand il n'y a pas les règles, quand les choses sont pas, quand tout est flou, et on peut faire
Ouais,
beaucoup de
on
choses.
peut faire tout ce qu'on veut.
Or, il faudrait quand même rendre compte. Il y a quand même une reddition de compte à faire. On doit rendre compte. Il faut faire une reddition de compte. Or, pour faire une reddition de compte, il faudrait que les règles soient définies au départ.
Bien
On sait
sûr.
exactement, on a, quel est le portefeuille de projet d'infrastructure en Côte d'Ivoire? C'est quoi? Et quelle est la vision? C'est-à-dire, en analysant simplement le portefeuille, on devait quand même pouvoir comprendre où est-ce qu'on s'en va? Où est-ce que, disons, quelles sont les priorités quand même de ce gouvernement-là? Où est-ce qu'il s'en va? Où est-ce qu'on emmène le pays? Si c'est les infrastructures, peut-être routières, OK. Ouais. Et même, avoir une telle planification quand même stratégique là, ça permet aussi aux entreprises, à l'écosystème de la construction quand même de se préparer. Parce qu'on a quand même une visibilité. On sait, OK, d'ici, OK, en 2025, le gouvernement compte lancer tel projet, de tel montant, disons, de telle valeur. Si c'est un projet hydraulique, OK, moi, je suis une entreprise, je sais que je n'ai pas cette compétence aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire? Des alliances stratégiques peuvent être créées afin de pouvoir répondre à cette demande localement. Mais sinon, on surprend les entreprises avec des projets à être réalisés, mais pratiquement, ce sont des entreprises étrangères, malheureusement,
Malheureusement,
qui
oui.
remportent. Pourquoi? Parce qu'elles sont
Parce que
déjà
les autres
prêtes.
sont elles qui ont la compétence à
Et
l'instant T.
elles sont prêtes à l'instant T, là. Donc, donner quand même, avoir une planification, ça permet de donner plus de visibilité, plus de prévisibilité. Et
En
l'industrie de la
fait,
construction pourra mieux se préparer, en fait.
c'est avantageux pour tous les acteurs, en fait, que ce soit le
Le
gouvernement,
monde.
les entreprises, ainsi de suite, quoi.
Tout le monde, tout le monde, tout le monde. Et même aussi, même pour les écoles de formation. Parce qu'en fonction, quand même, de la planification, on sait que, okay, donc il y a tel nombre de projets qui seront lancés. Donc, idéalement, peut-être il faudrait avoir tel bassin d'ingénieurs disponibles pour pouvoir répondre à cette demande-là
C'est ça.
d'ici 2026. Donc, peut-être que dans les écoles d'ingénieurs, on en prendrait peut-être plus pour telle année parce que en 2025, on veut avoir tel nombre d'ingénieurs disponibles sur le chantier pour pouvoir faire le suivi, le contrôle. On comprend, disons, de notre discussion, là, on comprend très bien que la planification stratégique, malheureusement, c'est pas bien compris.
Ouais.
Mais c'est un outil indispensable afin d'assainir, disons, le domaine de la construction, aider même un outil sur lequel les gouvernants peuvent s'appuyer pour communiquer. C'est aussi un outil de communication. Parce que quand tu dis exactement, tu montres la direction et
Ouais.
ça permet vraiment à l'industrie en général, pas seulement de la construction, même les banques. Les banques pourront également se préparer pour pouvoir financer ces
Oui, si on
entrepreneurs-là.
a une vision à long terme, ça permet à vraiment tous les acteurs de se préparer, quoi.
Se préparer, c'est ça. Donc les banques aussi vont se préparer afin d'accompagner aussi disons, les entrepreneurs pour qu'ils soient prêts, mieux outillés, avoir le matériel nécessaire pour répondre quand même à la commande.
OK.
Ouais, donc en tout cas, moi mon rêve là, c'est quand même que mon pays, la Côte d'Ivoire, puisse un jour. Si je peux contribuer d'une certaine façon là, ben, je vais vraiment pas hésiter. Mais un jour arriver avec cette vision vraiment stratégique là, pas seulement réaliser le projet pour le réaliser, on exécute et puis on sait même pas. Mais pourquoi est-ce qu'on le fait? Mais il faudrait qu'on arrive quand même à ce niveau-là, absolument.
J'espère qu'on va y arriver bientôt.
Mais moi je le crois, je crois, je crois qu'on va y arriver. Si on ne baisse pas les bras, parce qu'on a déjà cette discussion, c'est un podcast qui sera disons disponible.
Écoutez, ouais.
Écoutez. J'espère que, ben, au travail quand même, disons, de ces écoutes-là, ça ne va pas tomber dans l'oreille quand même, disons,
Ça
du
va faire
sourd, du
germer,
menton.
comme on appelle ça, une
Oui,
idée
exact,
dans
exact.
l'esprit des uns et des autres, et puis.
C'est ça. D'autant plus que, ben, dans nos discussions, on comprend clairement que ce n'est pas seulement pour à l'avantage des ingénieurs, disons, du génie civil, non. Mais c'est plus que ça, même les financiers. Je parlais tout à l'heure des banques, donc c'est pour les assurances, des compagnies d'assurance, afin de quand même aller développer des produits d'assurance qui vont répondre également, disons, des produits qui vont répondre
À des besoins
à ce
bien
type.
précis.
Et ça a des demandes bien précises pour pouvoir permettre aux entrepreneurs quand même d'être beaucoup plus à l'aise afin de travailler. Et puis, toute la ressource locale qui sera également mobilisée, l'argent reste sur place, c'est des investissements qui sont locaux et ça permet quand même de créer de la richesse.
Tout à fait.
Ouais.
D'accord. Olivier, on tend vers la fin
Ouais.
de cet épisode. Donc, déjà, moi, j'aimerais te poser si tu as des recommandations pour améliorer la productivité ou bien on va dire quoi la concentration lorsqu'on travaille et tout parce qu'avec l'aide des réseaux sociaux là c'est devenu tellement difficile de rester focus sur une tâche ou bien comment on appelle ça voilà
Mais écoute, on est tous confrontés à ça aussi. Hein. Nous sommes tous contemporains, donc on voit ce qui se passe. On est aussi souvent dans nos cellules, on travaille, mais ça prend vraiment de l'organisation. Et puis l'organisation, moi, il y a un outil que j'ai utilisé, disons, pendant mon MBA, effectivement, on avait le cours se nomme habileté de gestion. C'est-à-dire, tout ce qui est comportement, habileté, disons, d'un gestionnaire, notamment la gestion du temps, parce que le temps, c'est une ressource qui est très rare.
Tout
Donc, comment est-ce qu'on gère son temps? Et je me souviens que j'avais travaillé sur un sujet qui était comment est-ce que je m'organise afin de pouvoir mieux gérer mon temps. Donc, j'ai donné un exemple concret là, pour que les gens puissent me suivre. C'est que déjà, tu définis tes objectifs, ce que tu veux faire. Donc, sur une période de 6 semaines, et je dis, OK, moi, qu'est-ce que je veux changer? J'ai du mal à gérer mon temps, donc j'ai du mal à me concentrer. Et OK. À partir d'aujourd'hui, OK, à tous les soirs, je vais m'organiser pour pouvoir planifier mes tâches du lendemain. OK. Donc, je tiens un journal de bord, je fais mes tâches du lendemain. Et quand arrive le lendemain, ben, je m'organise quand même en travaillant parce que je me suis déjà, j'ai déjà planifié ma journée un peu à l'avance. Et maintenant, quand je travaille, qu'est-ce que je fais? Il y a un outil qu'on appelle le Pomodoro. Pomodoro.
Oui, ça, j'ai entendu parler. Je n'ai pas trop cherché, mais j'ai entendu parler.
C'est un très, très bel outil. C'est juste, c'est comme une tomate. Ça a été inventé par, disons, un restaurateur italien. Donc, Pomodoro, mais en italien, je pense que ça veut dire peut-être tomate ou, je sais pas, quelque chose en tout cas qui se ressemble. Et donc là, quand tu travailles, tu as 25 minutes, et tu le programmes, c'est comme un chrono, tu le mets 25 minutes. Donc, ça te permet en fait de rester concentré. Et pendant les 25 minutes, tu fermes tout là. C'est-à-dire tout ce qui est distraction. Le téléphone, c'est pas bien de travailler avec le téléphone à côté, à moins que tu attends vraiment un coup de fil du genre. Sinon, le mieux, c'est de le mettre vraiment très loin. Tu peux le mettre sous silence. Même Facebook, par exemple, tu peux paramétrer. Moi, j'ai paramétré mon Facebook pour qu'il puisse être ouvert en semaine à partir de 18h, de 18h jusqu'à 20h. Mais en dehors de ça, je ne reçois aucune notification. À moins que je veuille vraiment me connecter pour voir ce que j'ai reçu. Sinon, je ne reçois rien. Sinon, ton Facebook est tout le temps connecté et puis tu reçois des messages, des notifications, ça distrait.
Ouais.
Donc, le téléphone, tu le mets loin. Et quand tu travailles pendant 25 minutes, tu as le Pomodoro, tu le mets en marche et puis tu restes concentré. Le téléphone est loin, tu te concentres sur ta tâche. Après les 25 minutes, ben, ça sonne, le Pomodoro, pas le téléphone, et ça sonne, tu fais une pause de 5 minutes. Et pendant les 5 minutes, tu peux faire n'importe quoi là, pour t'aérer un peu l'esprit. Et tu reprends 25 minutes encore. Donc, après 4 séries de 25 minutes, tu prends une pause de 30 minutes. Mais c'est un outil, mes frères, je t'assure, c'est formidable. Moi, je l'ai testé pendant mon MBA. C'était un projet sur lequel on travaillait. Je l'ai fait parce que j'avais aussi un peu du mal à me concentrer ou souvent à rester concentré sur une tâche. Je suis un peu distrait ou souvent... s'organiser au travail, c'est pas que on passe du temps sur les réseaux sociaux, mais tu peux te mêler sur plusieurs tâches en même temps.
Ouais.
Tu fais beaucoup de choses, non. Reste sur une tâche, tu la commences, tu la termines. Si tu peux pas la terminer, tu l'arrêtes à un moment donné, et puis tu passes à une autre tâche. Mais souvent, en voulant être multitâche, à la fin de la journée,
on ne fait rien.
Donc, c'est se concentrer sur une tâche en particulier et puis aussi en utilisant l'outil Pomodoro, ça te permettra vraiment de gérer ton temps, de rester concentré aussi. Parce que pendant les 25 minutes, tu te concentres seulement sur ce que tu es en train de faire.
Oui, surtout que tu sais que ça, l'équipement va sonner dans 25 minutes, donc tu t'arranges pour...
C'est ça. Et même si tu ne termines pas après 25 minutes, tu arrêtes, tu fais une pause, tu tailles un peu, l'esprit, et puis tu reviens.
Okay.
5 minutes de pause, tu reviens 25 minutes, 4 fois après, tu prends une pause de 30 minutes. Moi, ça fonctionne tout le temps, ça fonctionne bien. C'est vrai que ben, quelqu'un dira, mais les pauses de 5 minutes, bon, finalement, là, tu es en train de gruger sur le temps de travail de ton employeur. Mais et le fait de passer toute la journée sur plusieurs
focus,
tâches.
En fait.
Oui, toute la journée sur plusieurs tâches et puis en fin de compte.
À là, ne rien faire en fin de journée.
À ne rien faire. Que de au moins arriver à faire une seule tâche bien faite et ça permet à quelqu'un d'avancer.
Ok. Ben, je vais essayer. J'espère que les auditeurs aussi vont essayer.
Non, mais c'est très efficace. Ouais,
au cours de l'épisode, tu as donné beaucoup de conseils, mais je te laisse encore l'occasion de donner quelques conseils aux plus jeunes, des gens qui sont encore à l'école, des gens qui s'apprêtent à sortir de l'école et tout.
Ils s'apprêtent à sortir de l'école s'ils sont plus jeunes. Mais moi, je dirais ceci. C'est vrai, le fait de naître dans un environnement, notamment en Afrique, d'être là, ce n'est pas une fatalité, absolument pas. Et de se dire aussi que la formation qu'on acquiert à l'école, en Côte d'Ivoire, ben, pour ne citer que à Côte d'Ivoire, même en Afrique, c'est une très très bonne formation. Elle est essentielle, donc ne pas la négliger. Moi, arrivé ici, je n'ai pas repris la formation que j'ai déjà faite là-bas, non. Il y a certains qui viennent qui reprennent tout, mais moi, ça n'a pas été mon cas. Ma formation d'ingénieur, disons, je travaille comme ingénieur ici, mais je n'ai pas été formé ici comme ingénieur. J'exerce avec la formation que j'ai faite en Côte d'Ivoire. J'ai juste fait des équivalences pour intégrer l'ordre des ingénieurs, c'est tout. Voilà, donc, moi, je dirais aux jeunes de rester vraiment focus, de se former, de ne pas avoir peur, mais de surtout de ne pas aussi attendre que ce soit l'employeur qui jette ta carrière. Il faudrait définir ce que tu veux, où est-ce que tu veux aller. Il y a des modèles qui existent. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir LinkedIn. Sur LinkedIn, il y a beaucoup de profils. Et puis, les gens aussi sont généreux. Ils n'hésitent pas, disons, à répondre à la preuve. Toi, on se parle, on ne se connaissait pas. C'est vrai qu'on a fait la même formation, mais on a pris contact sur LinkedIn tout de suite. Aujourd'hui, on est là, on parle. Des choses qui vont aussi permettre à d'autres personnes d'en profiter. Donc, ne pas hésiter aussi à demander conseil aux différenciés parce que c'est souvent ce qui nous manque. Donc, de demander exactement, tu vois un profil avec quelqu'un qui t'intéresse, est-ce que tu veux faire? Prends contact, questionne. Tu peux aussi comparer avec aussi une autre personne. Donc, en gros, de ne pas rester dans son coin, attendre que les choses se font, mais d'être en mouvement, en fait, d'être actif, de poser les questions, de ne pas hésiter aussi, disons, aller au fond des choses, de comprendre comment les gens ont fait, quand même, donc comment certaines personnes ont fait pour se rendre là où elles sont aujourd'hui, afin de mettre les moyens aussi pour s'y rendre. Voilà, donc c'est vraiment le conseil que moi je peux donner vraiment à toute la jeunesse, disons, qui nous écoute là.
D'accord. En tout cas, ce fut un plaisir pour moi. Hein. J'ai beaucoup apprécié l'épisode. Les
Merci.
discussions, elles étaient franches, profondes. Donc, je pense qu'on va s'arrêter là. Sinon, on va faire 2 heures. Mais bon, je pense que
C'est
c'est bon.
absolument c'est vraiment un plaisir.
Comme je le
Du coup,
disais, ça dépendait vraiment de là où les discussions nous envoyaient. Je ne
c'est
peux pas
ça, j'espère.
définir, en
Tu
fait.
avais raison aussi là. Ouais. Tu avais raison. C'est bien aussi. Moi, ben, personnellement, je t'encourage honnêtement là parce que
Merci.
c'est toujours bien quand même disons, de penser. Je sais que tu le fais quand même. Ce n'est pas seulement pour toi parce que c'est vrai que tu l'entends, tu es exposé à ce que je dis. Mais
Oui.
tu penses également à redonner aussi aux autres,
Si,
les
si.
suivants. Et c'est toujours bien quand même de voir les cadets qui sont, disons, à ce niveau-là, avec de tels projets. Voilà, que ben, c'est vrai qu'on n'a pas pu, nous, on n'a pas pu réaliser, mais écoute, c'est un mouvement d'ensemble, c'est un travail d'équipe. Moi,
Oui.
aujourd'hui, c'est vrai que ce n'est pas mon podcast, mais je contribue.
C'est ça.
Et c'est bien quand même, disons, d'avoir initié cela. Et puis, j'espère en tout cas que d'autres, disons, de tes aînés ou, disons, de mes cadets, en tout cas, tiendront également la pêche que tu vas tendre, afin de
Ok,
redonner également au suivant.
je l'espère aussi. En tout cas, merci
Merci,
bien et puis on s'y tient informé.
merci, Tadé.
Ok,
Je vous
au
remercie.
revoir.
Bye bye.